Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edowani Wamakaran.
Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Halud Mouni.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le grand dialogue.
Le grand dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir et encore une fois, toutes nos excuses pour ce contretemps, voilà, indépendant de notre volonté. Alors, le débat d'aujourd'hui, je vous le rappelle, est sur le congrès. Nous faisons donc le débriefing du congrès qui s'est passé le mois dernier à Genève sur la justice juvénile. Le Mali, je le rappelle, a plaidé sa cause lors de ce congrès à Genève. Et nous sommes avec les invités, les experts, pour donc décrypter ce qui s'est passé à Genève et ce que le Mali a sur ce domaine comme acquis. Et nous sommes avec Moussa Bagayoko du Bureau National Catholique pour l'Enfance et Modibo Tchéoulé Diarra, président du Tribunal des Enfants. Je suis Famoussa Sidibé, Nouhoumdiré est à la technique. Studio Tamani. La vie carcérale des mineurs ne se passe pas comme d'ordinaire dans les maisons d'arrêt. Le placement des jeunes en détention réfléchit et détermine donc une toute autre réalité. C'est donc dans cette optique que les textes ont prévu des établissements suffisamment compétents pour répondre à ces besoins. Ce court extrait du rapport de l'ONG Terre des Hommes sur le Mali, présenté le mois dernier à Genève lors du Congrès mondial sur la justice juvénile indique également que 239 mineurs ont été placés en détention durant l'année 2014 contre 214 en 2013. Alors nous sommes en 2015. Quelle est la situation dans le pays? Moussa Sarawi Maïga, je rappelle que vous êtes le directeur du centre de détention pour mineurs de Boulé.
Bonsoir.
Alors, quelle est la situation aujourd'hui de la justice des mineurs dans le Mali?
Bon, donc, je vais vous remercier d'abord d'avoir choisi...
Rapprochez-vous un peu.
Je vous remercie d'abord d'avoir choisi vraiment encore une fois de partager ce qu'on peut appeler la justice des mineurs en République du Mali avec effectivement les Maliens et pourquoi pas peut-être l'ensemble des décideurs. Bien, la situation au Mali, par rapport à la situation des mineurs, bon, je ne peux, pour moi, elle se porte bien. Mm-hmm. Elle se porte bien ou en tout cas apparemment bien, à partir du moment où il faut reconnaître qu'il existe une volonté politique dans ce domaine-là de pouvoir vraiment s'occuper de la question des mineurs en tant que telle. Et je pense qu'on peut même pouvoir qualifier la justice des mineurs en République du Mali de permissive, voire de tolérante, en tout cas pour ce qui concerne nos textes. Les textes sont pratiquement très innovants dans ce domaine-là, mais il reste l'application de ce texte-là à d'autres environnements qui sont matériels, logistiques, etc., etc. Mais au-delà de tout ça, je crois que la volonté politique qui s'affiche me donne vraiment une bonne impression de l'ensemble, et peut-être que tout n'est pas rose, et qu'ensemble, après, nous pouvons peut-être desséquer dans la réalité, ce qui est la justice des mineurs à la République du Mali. Mmh. Voilà.
Merci beaucoup, Monsieur Maïga. Je rappelle que vous êtes Moussa Sarawi Maïga, directeur du centre de détention pour mineurs de Boulé. Alors, nous avons Modibo Tchéoulé Diarra, président du tribunal des enfants, tribunal pour enfants. Monsieur Diarra, dites-nous aujourd'hui quelle est la situation. Nous sommes en 2015. Je le rappelle, les statistiques donnent comme enfants placés en détention 239 en 2014 contre 214 en 2013. Quelle est la situation à l'heure actuelle?
Bonsoir. Avant d'abord de répondre à votre question, je me réjouis vraiment d'être sur ce plateau avec le régisseur et le troisième invité. Nous venons juste de prendre service au niveau du tribunal pour enfants de Bamako. Donc, il y a juste 3 semaines, voilà, donc, que je viens d'être nommé président du tribunal pour enfants de Bamako. Et c'est dire tout simplement que, en fait, c'est un en fait les yeux d'un expert, en fait débutant certainement, qui va vous parler, et donc du tribunal pour enfants de Bamako. Et comme monsieur le régisseur vient de vous le dire, en fait tout n'est pas rose certes, mais en fait il n'y a pas de péril dans la demeure. Et c'est vrai, moi j'ai l'habitude de dire que en fait le milieu naturel de l'enfant, c'est la famille, ce n'est pas le milieu carcéral. Et donc je pense qu'au niveau du tribunal pour enfants, et nous avons en vue en tout cas cette disposition, cette idée que chaque fois que l'enfant est en porte-à-faux avec la loi, qu'il faut voir d'abord dans son intérêt, est-ce qu'il faut l'envoyer en prison ou est-ce qu'il faut en fait le maintenir dans le milieu familial pour lui permettre de ne plus en fait redevenir délinquant. Et je pense que c'est cette deuxième hypothèse qui doit prévaloir. Donc je dirais que aujourd'hui au niveau du tribunal pour enfants de Bamako, c'est vrai, il y a des enfants, on peut dire qu'il y a beaucoup, parce que même si c'est deux enfants ou trois enfants, on peut dire qu'il y a beaucoup, mais force est de reconnaître que c'est parce que nous avons pensé que c'est certainement la solution qu'il faut, et donc qui a prévalu effectivement pour que ces enfants puissent être placés donc au niveau du tribunal, au niveau donc de Bolé-Mineur.
Je rappelle que nous sommes en direct, contrairement à ce que j'avais dit tout à l'heure sur la rediffusion, et nous sommes en direct, tous nos invités nous ont rejoints, et donc nous parlons de ce, nous faisons un peu le point du congrès qui s'est tenu sur la justice juvénile qui s'est tenu à Genève, et le Mali a donc participé à ce congrès, et nous sommes en direct et avec nos invités, ils sont tous là dans ce studio. Alors Moussa Bagayogo, vous êtes du Bureau National Catholique pour l'Enfant. Alors vous venez d'entendre les experts parler de la situation des enfants placés en détention. Quelle est votre vision de cette situation actuellement dans le pays?
Ok, merci beaucoup. Salut à tous les auditeurs de la radio du studio Tamani. Donc moi, j'estime que le bilan est très mitigé. Voilà, parce que si nous regardons effectivement les nouveaux législatifs, donc le Mali a ratifié pratiquement toutes les conventions donc relatives aux droits de l'enfant, et au niveau national il y a eu l'adoption de plusieurs textes et même la relecture donc du code de protection qui a eu lieu en janvier, et je crois que ces textes sera adopté très prochainement. Mais dans la pratique, vraiment il y a des difficultés. La volonté politique est là, voilà, mais dans la pratique il y a des difficultés. D'abord, au niveau des commissariats de police, il n'y a pas de spécialisation. Donc ça, c'est une difficulté. Donc rares sont les officiers de police judiciaire qui maîtrisent ce droit spécifique qui est le droit des enfants. Donc quand les enfants arrivent au niveau des unités d'enquête, donc quel accompagnement, quelles sont les garanties des procédures, donc quel accompagnement ils doivent faire. Voilà. Donc ça, c'est une difficulté. Et nous, quand on renforce les capacités, donc souvent il y a des mutations, voilà, donc des agents qui sont formés. Donc ça, c'est une grosse difficulté. Au niveau de la justice, effectivement, les autres l'ont dit, donc il y a beaucoup d'efforts, voilà. Et donc dans le cadre de l'amélioration des conditions des enfants au niveau de la procédure, donc mais il reste aussi beaucoup à faire, surtout au niveau de la détention. Voilà, la détention aujourd'hui, donc elle est assez compliquée parce que les conditions dans lesquelles les enfants sont, donc c'est vrai, il y a la volonté de l'État, mais moi je pense que ces conditions-là doivent être améliorées. Et surtout, il n'y a pas de suffisamment de préparation pour la réinsertion. Parce que monsieur le président l'a dit, la place d'un enfant, c'est dans sa famille. Donc la prison ne peut être qu'un lieu de transit. Donc, il faut préparer l'enfant donc, et à son retour donc, dans la communauté. Mais malheureusement, donc, la prison contribue maintenant ces derniers temps à isoler un peu l'enfant de la communauté. Donc ce qui pose effectivement des problèmes de réinsertion des enfants. D'accord. Donc ce qui explique qu'il y a beaucoup de cas de récidive.
Alors Moussa Sarawi Maïga, vous venez de l'entendre, il y a des difficultés au niveau des commissaires pour même déterminer d'abord qui doit s'occuper des enfants et quel accompagnement on doit donner à cet enfant-là pour éventuellement se défendre. Mais je vais peut-être poser la question au juge pour mineurs, au président du tribunal pour mineurs, je rectifie. Alors, président, quels sont aujourd'hui les mécanismes de suivi ou bien d'assistance aux enfants une fois qu'ils sont admis dans les commissariats?
Bon, peut-être avant donc de répondre à votre question, je vais rebondir un peu sur ce qu'il a dit pour l'appuyer un peu. parce que en fait je pense que le tribunal pour enfants est un tribunal spécial. Donc si c'est un tribunal spécial, il faudrait que les acteurs en fait soient également des acteurs préparés en la matière. Et ceci dit, c'est vrai, au niveau des commissariats, il y a beaucoup de difficultés à ce niveau, mais même au niveau également du corps également, nous nous rendons compte que souvent il y a des difficultés, parce que quand moi, procureur, on m'impute un dossier des mineurs et que je pense que je suis compétent, je pense qu'il y a problème. Je pense qu'il y a problème. Et normalement, moi, procureur, lorsqu'on m'impute un PV concernant un mineur, je dois tout de suite me dessaisir en faveur du tribunal pour enfants. Et donc, voilà des difficultés, en tout cas, qui font que le tribunal pour enfants donc, peut en fait apparaître comme un tribunal, en tout cas pour ceux qui y sont, un tribunal... je ne sais pas si je dois dire ainsi, est-ce que c'est parce qu'on est sanctionné qu'on va au tribunal pour enfants? Je dis non, ce n'est pas ça. C'est la loi dit hein, que les juges qui sont nommés, c'est parce qu'ils portent un intérêt pour les questions de l'enfant. Donc il faut qu'il y ait un accompagnement à tous les niveaux, au niveau des commissariats de police, mais au niveau également des magistrats. Parce que, tenez-vous bien, nous venons juste d'avoir 4 juges au siège, au niveau du tribunal pour enfants de Bamako, 4 juges au siège. C'est des jeunes magistrats qui viennent d'arriver, qui sont à leur première mutation, qui, même s'ils connaissent ce que c'est que le droit des enfants, ils ont besoin quand même d'un accompagnement. Ils ont besoin quand même, en tout cas, d'une grande spécialisation. Et donc, voilà toute chose qui fait que si les accompagnateurs comme l'État et la DENAJI, l'Institut de formation judiciaire, les autres structures, en tout cas, prenaient en compte, ça va faire en telle sorte que, en tout cas, la question des enfants, en tout cas, peut connaître au Mali un essor beaucoup plus meilleur qu'on le connaît aujourd'hui. Sans pour autant créer, en tout cas, qu'il y ait...
D'autres problèmes.
En fait, non, sans pour autant crier que ça ne va pas. Non, je ne dis pas ça. Je dis que, mais s'il y avait ces accompagnements-là, c'est sûr que, en tout cas, aujourd'hui, on va connaître, en tout cas, en fait, un léger mieux aller que l'on ne connaît aujourd'hui.
D'accord. Alors, nous allons observer quelques secondes de pause. Je rappelle que, nous nous excusons encore une fois du démarrage tardif de cette émission. Nous allons observer quelques secondes de pause avant de reprendre avec la deuxième partie.
Vous écoutez Studio Tamani ? Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Les réseaux sociaux à travers également nos 20 stations radio partenaires réparties dans les 4 coins du pays, à savoir les 8 régions du pays en plus de la capitale. Et nous sommes également sur les réseaux sociaux Studio Tamani, la page Facebook, le compte Twitter et notre site web www.studiotamani en un seul mot.org. Nous parlons aujourd'hui de la justice juvénile. Je rappelle que le Mali a participé au congrès mondial sur la justice juvénile tenu le mois dernier à Genève et le Mali a donc plaidé sa cause avec ce rapport de Terre des Hommes sur la situation des jeunes en détention dans le pays. Et nous sommes avec 3 invités, Moussa Sarawi Maïga, directeur général du centre de détention pour mineurs de Bolé. Également là dans ce studio, Modibo Tchéoulé Diara, président du tribunal pour enfants, et Moussa Bagayogo du bureau national catholique pour enfants. Et nous sommes à la deuxième partie consacrée à l'efficacité, au thème suivant, l'efficacité du système pénitentiaire au Mali. Les prisons maliennes sont-elles les maillons faibles du système judiciaire? Moussa Sarawi Maïga, est-ce que vous pouvez nous développer un peu le cas des prisons, sinon des centres de détention?
Bien, donc je vous remercie une fois encore, mais il faut peut-être nuancer, je ne peux pas en tout cas d'abord si je veux dire à peu près que les prisons en République du Mali sont peut-être les moins nantis, mais force est de reconnaître qu'en réalité par rapport à la scène judiciaire, je pense qu'on peut dire que c'est la chaîne oubliée. C'est la chaîne oubliée. Je crois que pour une nuance, nous pouvons dire que quelquefois, même les gens qui, je dis entre guillemets, les gens pour dire nos partenaires administratifs et judiciaires qui envoient les enfants ou bien peut-être les personnes en prison, ne se préoccupent pas pratiquement de ce qui peut peut-être être la réinsertion de ces jeunes-là. Donc l'aspect judiciaire, l'aspect sanction, à mon sens, prévalent beaucoup dans l'esprit, je peux le dire comme ça, peut-être des magistrats de façon générale, sans être peut-être orthodoxal, mais c'est pour dire qu'en réalité, ailleurs, il y a l'application, il y a des juges d'application de peine qui permettent un peu de suivre le mouvement. Même, encore une fois, dans les différentes phases judiciaires, je pense qu'on cite la pré-enquête comme phase première, la deuxième enquête, c'est peut-être, il parle de la poursuite, et puis après, on parle de l'instruction et du jugement, mais on oublie la phase la plus essentielle pour nous en tant que travailleurs sociaux, qui est pour tout, d'autres le disent, la phase des sanctions. Nous, nous préférons dire la phase des exécutions, peut-être des décisions de justice, qui sans elle, je pense, on n'aurait pas peut-être amélioré le système judiciaire de façon générale. Donc je pense effectivement que c'est une chaîne oubliée.
D'accord. Alors, Moussa Bagayogo, quel est votre avis sur la situation des prisons par rapport à, de façon globale, dans le système judiciaire?
La situation des prisons n'est pas reluisante. Faites un tour dans les différentes maisons d'arrêt du Mali. Voilà, et personne ne souhaiterait que son enfant séjourne dans ces endroits-là, compte tenu des conditions de détention. Je l'ai dit, l'État, il y a eu une volonté affichée, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Donc d'abord, il faut qu'on aille vers la justice restauratrice. Donc qu'on termine avec la règle des 3P, donc police, parquet, prison. Donc le Mali a ratifié, comme je l'ai dit, pratiquement toutes les conventions, et même nos textes nationaux sont fondamentalement orientés vers la restauration de l'enfant. Privilégier des mesures alternatives à l'emprisonnement pour favoriser la réhabilitation, la rééducation de l'enfant pour lui permettre de redevenir un individu normal. Donc nos erreurs d'enfance, de jeunesse, donc ne doivent pas assombrir tout l'avenir.
Le futur.
Voilà, le futur. Donc moi j'estime que la situation n'est pas reluisante. Donc il faut encore beaucoup d'efforts au niveau des conditions de détention.
D'accord. Alors Moussa Sarawi Mega, juste avant de vous donner la parole au président du tribunal des enfants, Modibo Tchioulidjara, je vais poser d'abord cette question à Moussa Sarawi Mega. Vous êtes le directeur du centre de détention pour mineurs d'Obolé. L'année 2014 a enregistré 239 enfants mineurs placés en détention contre 214 en 2013. Et les chiffres évoquaient 2 ans ou bien 3 ans en arrière, 100 et quelques. Aujourd'hui, c'est 239. Est-ce que le centre de détention pour mineurs d'Obolé est assez équipé pour abriter tous ces enfants?
Bon, je crois que c'est des statistiques. Et ces statistiques, je pense, sont annuelles. En réalité, ce n'est pas que tous ces enfants sont arrivés en même temps ensemble, mais c'est, je crois, des statistiques annuelles. Donc, la moyenne que nous avons par peut-être trimestre, je peux l'imaginer, ou par mois, c'est peut-être 60, au maximum 60 ou 75. Donc, et ça fait un mouvement de rentrée et de sortie. Les 200 qui viennent d'être dit là, ou bien peut-être les 100 et quelques, c'est en réalité par an. Donc, par conséquent, en réalité, dans la pratique, nous n'avons pas de problème vraiment d'effectifs au niveau, puisqu'il existe même des dortoirs qui restent encore fermés. Donc, nous n'avons pas de surproduction.
Donc, vous n'avez pas de surcharge?
Non, nous n'avons pas de surcharge. Nous n'en avons pas. Maintenant, par rapport aux conditions de dédication, de réinsertion et autres, bon, nous l'avons dit depuis le début. C'est vrai que la volonté politique existe, mais il existe aussi d'autres environnements qui consistent vraiment à améliorer, qui ne suivent pas. Par exemple, la formation du personnel, la spécialisation du personnel, l'équipement, etc. Et tout ceci là, j'ai dit, je ne dis pas, ne sont pas à point à 100%. Mais moi, je pense qu'il faut reconnaître quand même qu'un effort est fait dans ce sens-là, parce que la réinsertion ou la rééducation de ces mineurs-là, c'est à l'image des moyens de l'État. Bon, peut-être c'est là l'occasion pour faire un appel peut-être à la société civile, éventuellement aux ONG aussi, puisque l'État nous permet aujourd'hui, de façon, excusez du terme très laxiste, d'ouvrir les prisons et en tout cas les structures d'enfants et autres là, pour que l'accompagnement aussi de ces structures-là puisse être là pour pouvoir vraiment améliorer les conditions de détention. Mmh. En matière maintenant de détention provisoire, un effort est fait parce qu'on a délocalisé l'ensemble des dossiers qui étaient éparpillés à travers les instances des premières instances de Bamako pour les localiser au tribunal des enfants. Mmh. Je pense que c'est un effort qu'il faut reconnaître et qui réduit aujourd'hui les délais de détention préventive. Ensuite, d'autres aspects judiciaires et socio-éducatifs, je pense, ont été faits dans ce sens-là, mais il faut reconnaître que ce n'est pas suffisant. Mmh. Donc, la volonté politique plus la marche de ce qui est en train de se faire, nous, vraiment, nous pensons que nous pouvons aller de mieux si un effort complémentaire s'y ajoutait.
D'accord. Voilà. Alors, Modibo Tchéoulé Ndiara, vous êtes le président du tribunal pour enfants. Vous avez une vision plus globale de la situation. Là, on évoque la situation à Bolé mineur, mais il y a d'autres centres de détention pour mineurs dans le pays et également contigu au centre de détention de Bolé mineur, notamment la prison pour femmes. Quelle est aujourd'hui, quelles sont les statistiques? Est-ce qu'il y a surcharge, contrairement à Bolé, est-ce qu'il y a surcharge dans ces centres-là?
Bon, écoutez, comme M. le directeur vient de le dire, il n'y a pas à proprement parler de surcharge. Mmh. En fait, les chiffres, c'est pas que en fait tous ces enfants se sont retrouvés au même moment. Hein, c'est des statistiques donc d'une année. Mmh. Voilà, donc il faut pas penser que voilà en 2014 il y a eu 2200 et quelques enfants. Donc il faut pas penser que tous ces enfants-là se sont retrouvés en même temps au niveau de Bolé. Mmh. Si c'était le cas, c'est sûr qu'il va avoir effectivement un problème de surcharge. Mais c'est pas comme ça. C'est que en fait, d'abord, même si c'est pas les enfants, même concernant les majeurs, c'est que le principe, c'est la liberté. Le principe, c'est la liberté. Donc chaque fois que un juge a un dossier, le principe, c'est que il faut tout faire pour que l'individu puisse éviter la prison. C'est ça le principe, la liberté. Et la détention préventive est l'exception. Donc, surtout concernant l'enfant.
Quand vous dites qu'il faut tout faire pour éviter la prison, c'est-à-dire?
C'est-à-dire que lorsque, en fait, il y a un certain nombre de critères, le mise en cause répond à un certain nombre de critères, donc il faut l'éviter la prison, notamment la représentativité est garantie, il n'a pas de risque que, en fait, en sortant, il aille surdouer, par exemple, les témoins, ou bien répétition de l'infraction, etc., etc. Donc je pense que chaque fois que tel est le cas, donc on peut effectivement, en fait, le poursuivre non détenu. Mmh. S'agissant de l'enfant, comme je l'ai dit, le cadre naturel, c'est en fait le cadre familial. Donc il faut faire en sorte que l'enfant, même si on le mettait en prison, comme a dit M. Bayrou, l'enfant en sortant puisse en fait apprendre quelque chose déjà au niveau de la prison,
entamer la réinsertion,
qui fasse que dès qu'il sort, qu'il n'y ait plus de chance pour que l'enfant puisse revenir. Mmh. Moi, je pense que c'est ça qui est le plus important. Parce que l'important, ce n'est pas de l'envoyer en prison. Ce n'est pas de... Je vais citer Monsieur le président du tribunal pour enfants de France qui dit « Baffé n'est pas jugé ». Mmh. Effectivement, ce n'est pas jugé. Il ne s'agit pas de sanctionner pour penser qu'on a jugé. Non. Il faut faire en telle sorte que l'enfant puisse comprendre d'abord que ce que lui, il a fait est une infraction. Et en fait, il est en porte-à-faux avec la loi. Il faut d'abord qu'il comprenne ça. Ensuite, quand il comprend ça, il faut l'amener à changer de comportement. Il faut le préparer pour que demain, s'il sorte, qu'il sache que en fait, c'est dorénavant, c'est comme ça que je dois me comporter. Je vais vous donner un exemple frappant. Et je ne sais pas si monsieur le directeur il a noté ça avec moi. Hier, il y a un mineur qu'on a fait sortir, donc dont en fait les parents étaient tellement remontés qu'ils ont pensé qu'il fallait le mettre en prison pour le calmer un peu. Donc quand il est ressorti. Au niveau de Bolé, il a adopté un comportement exemplaire, la demande est venue pour que l'enfant puisse sortir et regagner la famille. Et moi, j'ai pris le soin sur moi de le recevoir, de lui donner des conseils. Mais j'ai vu qu'il était tellement joyeux que j'étais tellement content. J'ai dit, mais est-ce que vous n'aimeriez pas un jour être à ma place? J'ai obtenu en fait un sourire de lui qui m'a vraiment envoyé aux anges. Ah oui, il dit effectivement. Je dis bon voilà, mais pourquoi vous ne pouvez pas vous comporter ainsi? Mais il faut dire que tout n'est pas du faute de l'enfant. Comme on le dit chez nous, l'enfant c'est une jeune pousse. Il faut faire en telle sorte que au moment en fait où il va devenir adulte. Donc qu'il soit suffisamment préparé pour qu'il affronte la vie. Voilà, pour qu'il affronte la vie. Mais si l'on pense que dès que l'enfant est en porte-à-faux avec la loi, il faut l'envoyer en prison, on l'envoie en prison, il n'y a pas un mécanisme qui est là pour prendre en fait pour l'encadrer et l'amener en tout cas à ne plus revenir. Je pense qu'en ce moment, on peut créer un scandale. Mais je pense que vous l'avez noté avec M. le directeur que tel n'est pas le cas. C'est vrai qu'il y a des problèmes, mais ce n'est pas des problèmes insurmontables. C'est des problèmes qui sont dus peut-être à la spécialisation des hommes. Il faut un accompagnement du début à la fin. Parce que c'est une juridiction spéciale. Les enfants même, c'est une matière spéciale. Donc il faut un accompagnement du début à la fin. Aussi bien au niveau des commissariats de police, au niveau des unités d'enquête, au niveau de la prison et également les magistrats qui sont chargés de traiter ces questions, il faut en tout cas que toute cette chaîne-là soit outillée par rapport à la question de l'enfant, donc pour l'accompagner, pour que demain, l'enfant, dès qu'il sort, en fait, n'ait plus de chance pour qu'il puisse revenir en prison.
D'accord.
Je pense que c'est ce qui est en fait...
La meilleure chose à adopter. Alors, les insuffisances du système carcéral dépendent, par rapport aux enfants, dépendent plutôt d'une série de formations qu'il faut aujourd'hui adopter pour les acteurs du domaine. C'est du moins l'avis du président du tribunal pour enfants, Modibo Tchewoulindjara, qui est avec nous dans ce studio. Je rappelle que le débat d'aujourd'hui est focalisé sur la justice juvénile. Nous allons observer quelques secondes de pause avant de poursuivre avec la troisième partie qui est consacrée au système de réinsertion de ces enfants en détention.
Une réaction,
un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Studio Tamani qui parle aujourd'hui de la justice juvénile. Cette émission a été totalement consacré au congrès qui s'est tenu à Genève, au congrès mondial sur la justice juvénile qui s'est tenu à Genève. Le Mali a donc participé à cette émission. À titre de rappel, 239 enfants ont été placés en détention en 2014 contre 214 en 2013. Et nous sommes à la troisième partie de cette émission qui est consacrée au système de prévention de la criminalité au Mali. Nous sommes avec trois invités, Moussa Sarawi Maïga, le directeur du centre de détention pour mineurs de Bolé, Moussa Bagayogo du Bureau national catholique pour enfants, et Modibo Tchewoulindjara, le président du tribunal pour enfants. Alors, Moussa Sarawi Maïga, vous êtes le directeur du centre de détention pour mineurs de Bolé. Vous refusez qu'on parle de prison en s'adressant à vous, à votre centre. Vous êtes un centre éducatif pour les enfants. Quand on entre dans ce centre, on a l'impression d'être toujours à l'extérieur. Quel est le système que vous adoptez, vous, à votre niveau, au niveau de Bolé, centre de détention pour mineurs, pour que la réinsertion se fasse le plus facilement possible?
Ok, merci beaucoup. Donc j'étais effectivement tiqué à chaque fois que vous parlez de prison. On ne va pas rentrer dans les dénominations. Vous avez bien compris que je ne partage pas ça du tout. Quand bien que même, c'est quand même un enclos fermé. que nous regrettons tous, parce qu'en réalité, l'appellation centre spécialisé de détention, de rééducation et de réinsertion pour les mineurs nous augure d'un centre fermé. Et nous pensons qu'en réalité, c'est ça aussi les insistances de la loi, l'enfant ne doit pas être dans un milieu fermé. Et paradoxalement, la loi a ainsi décidé, parce que, comme on le dit, il faut mieux vaut prévenir que guérir. Tout se présente comme si on laissait les enfants commettre une forfaiture, violer, piller, etc., pour s'occuper d'eux. En réalité, les enfants qui se comportent comme ça ne sont pas les plus nombreux, heureusement pour nous d'ailleurs. Mais il faudrait peut-être mettre une politique en avant pour permettre aux enfants en vagabondage, ou les enfants de la rue, etc., n'est-ce pas, de ne pas commettre des forfaitures. Et peut-être là, c'est là qu'il y a la grande masse de déviation d'enfants. Mais puisqu'il en est ainsi, vous allez pu constater qu'avec nous, nous avons pratiquement ouvert les portes et les fenêtres du centre spécialisé de détention pour dire qu'en réalité, là se trouve un groupe cible spécifique qui a besoin d'un environnement et beaucoup plus ouvert plutôt que fermé, même si en réalité, dans les textes, c'est un milieu fermé. Donc, c'est pratiquement une question pour nous vraiment de spécialistes. Et nous pensons que, oui, c'est un centre de détention, mais que nous ouvrons par nos pratiques à l'ensemble des pratiquants. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons comme activité? Bon, elles sont multiformes. Il y a l'éducation, il y a les techniques sanitaires, il y a les ateliers, il y a ce qu'on peut appeler aussi les formations éthiques, etc. Donc, il y a un ensemble d'assemblages techniques, éducationnels ou socio-sanitaires que nous faisons. N'est-ce pas, pour permettre à l'enfant un peu, pour vous citer à peu près la chaîne, quand l'enfant arrive, nous le soumettons à une quinzaine d'observations. Cette quinzaine d'observations nous permet de connaître à peu près la personnalité de l'enfant pour l'orienter après dans telle ou telle unité de formation. Et cela, conformément d'abord à ses capacités physiques et intellectuelles, mais aussi et conformément, n'est-ce pas, à ses capacités de pouvoir s'adapter à ce truc-là. Donc il existe un collégial de pratique professionnelle à ce niveau-là pour le faire. Bon, mais il faut reconnaître qu'à ce niveau-là aussi, ce n'est pas des grands spécialistes. Ce n'est pas des grands spécialistes, c'est des gens qui ont une formation générale de façon, si on peut le dire comme ça, mais qu'à cela ne tienne, à défaut de pouvoir se trouver des grands spécialistes, ceux qui sont là, des enseignants, des sanitaires, des formateurs techniques, etc., s'occupent autant qu'ils peuvent, n'est-ce pas, de cette réinsertion-là, n'est-ce pas, en transformant leur temps, comme nous le disons, de détention en temps d'activité, que ce soit l'agriculture, que ce soit les techniques des ateliers, que ce soit le NTI, que ce soit l'alphabétisation et la scolarisation. Voilà un ensemble de moyens techniques ou éducationnels qui nous permet un peu de permettre à l'enfant de se réinsérer. Mais nous le préparons aussi à une autre activité qui, nous pensons, doit se faire au-delà de la maison. Mais malheureusement, nous n'avons pas, si vous voulez, suffisamment la main sur les enfants pour leur donner un temps de formation conséquent, parce que c'est des gens placés.
Est-ce que vous le souhaitez ?
À tout moment, ils sont libérés. À tout moment, ils peuvent venir aujourd'hui et partir. Donc, nous constatons tout juste de transformer leur temps de détention en temps d'activité et de travail.
Alors, est-ce que vous souhaitez que ces enfants reviennent et qu'ils poursuivent cette formation ?
Non, plutôt nous pensons que même si ces enfants reviennent pas au centre de détention en tant que tel, nous pensons à une structure beaucoup plus ouverte, comme les centres d'observation et de rééducation, les centres professionnels qui sont prévus dans nos textes nationaux de l'administration pénitentiaire. Malheureusement, ces centres-là ne sont pas opérationnels encore. C'est des milieux ouverts dans lesquels on a suffisamment le temps de s'occuper des enfants sans empreinte judiciaire. Je ne dis pas que l'enfant ne doit pas être devant le juge, c'est pas ce que je veux dire, mais que l'aspect judiciaire doit se minimiser par rapport à l'aspect socio-éducatif.
D'accord. Voilà. Alors, Moussa Bagayogo, vous êtes du Bureau national catholique pour enfants. Quelles sont les actions que vous menez à votre niveau pour faciliter la réinsertion de ces enfants-là en difficulté avec la loi?
Ok, merci pour cette question. Je voudrais rappeler que, effectivement, les enfants en conflit avec la loi, c'est à Bamako, mais c'est également dans les autres régions du Mali. Voilà, donc le BNCE Mali intervient à Ségasso, Ségou, Mopti. Voilà, donc j'avoue qu'il y a des difficultés. Bamako a eu la chance d'avoir un centre pour mineurs, bon, mais à l'intérieur, donc les enfants donc, en conflit avec la loi sont.
Avec les adultes.
Avec les adultes dans les maisons d'arrêt. C'est vrai, il y a un quartier pour mineurs à Mopti, à Ségou, à Sigasso. Bon, mais la séparation n'est pas effective parce que les enfants ont leur quartier, mais et la grande cour, voilà, donc
commune à
tous les prisonniers. Donc ça, c'est une grosse difficulté. Voilà. Donc nous, nous accompagnons effectivement les enfants en conflit avec la loi dans le cadre de leur réinsertion. Donc d'abord, il y a le soutien psychosocial que nous apportons à ces enfants-là. Ensuite aussi, nous accompagnons les activités d'ergothérapie. Voilà, donc les enfants fabriquent des petits objets, des porte-clés, des sacs à main, et, voilà, donc dans nos zones d'intervention. Ensuite aussi, nous travaillons avec les parents de l'enfant, voilà, donc pour élaborer son projet de vie. On demande à l'enfant qu'est-ce qu'il veut faire à sa sortie. Voilà, donc il y en a qui veulent retourner à l'école, donc nous cherchons donc, des établissements scolaires pour eux. Il y en a qui veulent apprendre un métier. Donc à ce titre, nous avons une convention de partenariat avec la chambre, la coordination des chambres des métiers de la commune 4 qui comprend 70 corps des métiers, donc tous les métiers que l'enfant veut apprendre. Mais j'avoue qu'il y a des difficultés. Parce que la première difficulté, comme monsieur le directeur l'a dit, c'est d'abord le programme socio-éducatif mis en place à Bolé. Moi, je pense qu'il est temps d'évaluer ce programme.
D'abord, est-ce que... qu'il n'est pas efficace?
Bon, je pense quand même
qu'il
y a des lacunes. Parce que si nous regardons les taux de récidive, voilà, donc il y a des lacunes. Je me rappelle en 2013, le juge des enfants, quand on était à Bolé pour la commémoration du 16 juin, donc les enfants ont fait un plaidoyer pour la libération, voilà, donc voilà, pour leur libération. Mais le juge a dit, ok, je peux vous libérer tous, mais je vous promets que dans une semaine, les 90% d'entre vous vont revenir. Parce qu'il n'y a pas de mécanisme d'accompagnement. Voyez. Donc moi, je propose qu'il faut évaluer le programme socio-éducatif. Est-ce que l'espace dont, que les enfants utilisent dans le cadre des activités-là est adéquat? Est-ce que les ressources humaines dont, compétentes sont là pour effectivement s'occuper de ces enfants-là? Est-ce que le matériel nécessaire est là? Et souvent, il y a certains enfants qui séjournent, le séjour est bref. Donc 3 mois, 4 mois, 6 mois. Bon, est-ce que le programme répond à ça? Si l'enfant est libéré en plein milieu de la formation, quel est le travail de suivi donc, qui doit être fait? Est-ce qu'il y a un atelier dans la communauté, dans d'autres quartiers
pour
où l'enfant peut poursuivre
faciliter la
pour faciliter la réinsertion? Moi, je pense qu'il faut poser ce problème. Parce que vraiment, notre maillon faible, hein, ça a été dit, j'ai eu la chance de participer au congrès mondial. Donc, que ce soit en Afrique ici, en Amérique latine, en Europe, donc, la réinsertion des enfants en conflit avec la loi est un problème.
D'accord. Alors, nous avons le président du tribunal pour enfants, mais juste avant, Moussa Sarawi veut ajouter quelque chose. Alors, rapidement.
Voilà, donc je vais rapidement. Je crois que je partage avec mon homo, peut-être pour évaluer, parce que quand vous faites un travail, il est bon toujours de l'évaluer. Mmh. Moi, en réalité, il y a beaucoup d'aspects. Le phénomène de pouvoir accompagner les enfants, c'est pas volé. Et la question qu'il avait posée, il y a des enfants qui viennent à voler pour manger, en réalité. Je n'aime pas travailler. Parce qu'en réalité, les gens, quand vous les abandonnez, ils n'ont pas de répondance sociale. Ils n'ont pas de famille, ils sont dans la rue. Immédiatement libérés, je vous promets que dans 2 ou 3 jours, ils vont revenir. Ce n'est pas le système socio-éducatif.
Ils ne reviennent pas en commettant des infractions, mais plutôt pour...
Non, ils peuvent même commettre parce qu'il faut qu'ils mangent. Ouais. Quand vous libérez un enfant qui n'a pas de soutien de famille, qui n'a pas de tuteur, qui n'a rien, et qui, même s'il a les tuteurs ou autres, là, il ne s'occupe pas d'eux, mais il va faire de la forfaiture et revenir. Donc, en réalité, nous avons ce problème-là. Nous pensons aussi qu'on fait de trop. On fait de trop même aux enfants, en matière en tout cas d'alimentation, en matière de réinsertion, c'est pourquoi ils reviennent. Donc, je pense que la réflexion est lancée. Ce n'est pas le système socio-éducatif en tant que tel qui est en cause, mais c'est un ensemble de choses. Ensuite, il ne faut pas libérer pour libérer. Comme il l'a dit, quand le juge libère, on ne peut rien, on va libérer. Mais dans l'entretemps, on a amorcé un travail d'éducation, de formation et autres. Peut-être qu'il faut trouver des relais.
Pour que
le suivi post-carcéral après. Mais s'il n'y a pas de suivi post-carcéral, vous le libérez après. Il n'a pas de soutien de famille, il n'a pas de répondant. Mais croyez-en qu'il va revenir dans quelques instants. Ça, ce n'est pas lié en tant que tel, n'est-ce pas, à la faiblesse du socio-éducatif ou à la faiblesse du personnel de Bolé en tant que tel. Je pense que la réflexion est lancée et qu'on puisse trouver des pistes vraiment pour améliorer l'ensemble de la chaîne.
D'accord. Alors, Modibo Tchewoulin-Idera, vous êtes président du tribunal des enfants. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est mis en place pour prévenir contre la récidive des enfants? Quels sont les mécanismes d'accompagnement?
Bon, contre la récidive, Est-ce qu'on peut prévoir quelque chose contre la récidive? C'est un point d'interrogation. Mais moi, je partage largement en fait ce qui vient d'être dit par l'aide Moussa. Je pense qu'il y a un problème de suivi. Parce que on ne souhaite pas que l'enfant en fait dure assez longtemps au centre. Maintenant, en le libérant, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il n'y a pas lieu de penser que lorsque cette libération soit conditionnée peut-être au fait qu'on prévoit autre chose à l'enfant dans la vie et qu'il continue à revenir si par exemple il optait pour un métier en fait qu'il puisse continuer à fréquenter le centre, pas cette fois-ci en tant qu'enfant contrevenant, mais en tant qu'enfant venant pour parfaire en fait une situation. Voilà. Donc il y a lieu de s'interroger par rapport à ça. Donc sinon la récidive, dire qu'on peut en fait prévoir, je pense que c'est trop dire. On ne peut pas prévoir, mais quand même il faut mettre un accent sur en fait le suivi après. Donc il faut pas que l'enfant, dès qu'il sort le milieu carcéral, qu'il soit remis à ses parents, parce que si c'était la solution, je pense que l'enfant n'allait pas se retrouver dans cette première position. C'est parce que quelque part, certainement les parents ont fauté, c'est parce que quelque part il y a eu quelque chose qui n'a pas fonctionné, qui a fait que l'enfant s'est retrouvé dans cette situation. Donc ce temps de passage d'un mois, deux mois, trois mois, en fait, qui fait que l'enfant, en le remettant à ses parents, en le remettant à personne, parce qu'il y a quand même la détention, elle doit être quand même limitée. Donc le juge est obligé de le remettre en liberté. Donc, et s'il n'y a pas de suivi à ce niveau, et c'est l'âge où je pense que en fait les ONG et même l'État, parce que le juge, lui, c'est si vous voulez bien, c'est le court et le moyen terme. Mais le long terme, c'est le politique. Ah, il faut que le politique intervienne à ce niveau pour que, en tout cas, pour prévoir ce qu'il faut.
Les mécanismes
d'accompagnement après donc la détention ou même, pendant la détention, qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'enfant, si demain il devait être mis en liberté, pour qu'il puisse continuer en tout cas à travailler, pour que ce qui est entamé au niveau de cette détention ne soit pas à peine perdu.
Alors nous sommes à la fin de cette émission, malheureusement le temps est parti, est fini, est terminé, et nous nous excusons pour le démarrage tardif de cette émission, indépendant de notre volonté, une émission qui réfléchissait sur le congrès mondial sur la justice juvénile qui s'est tenu à Genève, et le Mali a donc participé à ce forum, à cette rencontre mondiale, et nous étions avec trois invités: Moussa Sarawi Maïga, directeur général du centre de détention pour mineurs de Boulé, Moussa Bagayogo du Bureau National Catholique pour l'Enfance, et le président du Tribunal des Enfants, Modibo Tchaoulé Diara. Je suis Famoussa Sidibé, Nouhoum Diré était à la technique, Peting Diara était à la régie vidéo, Ousmane Diadje Touré m'a aidé à réaliser cette émission. Nous vous disons à demain pour un autre débat. Bonsoir.
Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edowani wa Makaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenibiru.
Halud Mouni.
Chenibiru. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.